C'est un podcast Vivre FM. Vivre, c'est épatant sur Vivre FM.
8 millions de personnes sont touchées par l'obésité et 180 000 personnes en meurent chaque année. Une maladie complexe que notre invitée aujourd'hui a vaincue. En 2011, Karine Robles est atteinte d'obésité morbide, mais subit une intervention bariatrique qui lui fait perdre peu à peu 100 kilos. Et aujourd'hui, elle se considère sauvée. Elle s'investit dans le combat associatif, elle témoigne dans les médias pour sensibiliser aux problèmes de l'obésité et faire reculer la grossophobie. Vous l'avez d'ailleurs peut-être vu dans le meilleur pâtissier gâteau sur commande sur M6, où elle a conçu un gâteau faiblement calorique mais délicieux. Elle nous raconte son parcours.
Vous écoutez Vivre c'est épatant
avec Carole Clémence.
Karine Robles, bonjour.
Oui, bonjour Carole, bonjour aux auditeurs.
Karine, en 2011, vous pesiez 197 kilos.
Oui.
Donc vous étiez en obésité morbide.
Oui, c'était même plus morbide, c'est encore... Au-delà.
Oui, c'était... Parlez bien près du micro. Hein.
Oui.
Vous considériez que votre vie était en danger à l'époque ?
Oui, puisque j'avais rencontré deux chirurgiens et les deux me laissaient 2 ans.
Ah oui ?
Oui.
Ah ouais, c'est fou. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé après ça ? Après ce diagnostic, 2 ans ?
J'ai rencontré deux chirurgiens et puis j'ai eu, on va dire... un très bon feeling avec celui qui m'a sauvé la vie, qui est le professeur Chouillard. Dès l'instant où je l'ai rencontré, c'était ma première opération chirurgicale, mais j'ai su que c'est avec lui que je partais dans cette aventure.
Oui, alors c'est compliqué de traiter l'obésité. Vous avez choisi de faire réduire votre estomac, c'est
oui.
ça ?
Moi j'ai eu recours à la chirurgie bariatrique. J'ai eu une sleeve où on m'enlevait les 3/4 de mon estomac. Pour moi, c'était la seule solution.
Oui, mais alors c'est pas dangereux d'enlever une partie d'un organe comme ça ?
Mais en fait, c'est une des seules opérations où on va à l'hôpital et on nous enlève un organe sain.
Oui. Oui,
voilà.
Et alors c'est pour augmenter le sentiment de satiété et donc ne
oui.
plus avoir faim, c'est ça ?
Oui.
Et ça a fonctionné ?
Oui. Oui, j'ai perdu plus de 100 kilos.
Oui. En combien de temps ?
Les 100 kilos en un an.
Oui.
En fait, j'ai fait une promesse à mon chirurgien. J'ai eu conscience du risque qu'il prenait en m'opérant, puisque j'avais des comorbidités. Donc, je lui ai toujours dit que je ferais tout mon possible pour que cette opération soit une réussite. Et aussi pour toute l'équipe pluridisciplinaire qui m'accompagne.
Oui, parce que c'est quand même une opération lourde avec des conséquences.
Oui.
Justement, racontez-nous quelles sont les conséquences de cette chirurgie bariatrique en général et pour vous ?
Mais en fait, pour moi, ça s'est très bien passé. J'ai eu cette chance. Il y a des personnes qui en meurent, il faut le savoir. Elles ne meurent pas de leur obésité, mais elles meurent de l'opération.
Oui.
Donc il faut en prendre conscience que c'est une opération lourde. Pour moi, ça s'est vraiment très bien passé. J'ai eu En fait, le chirurgien, il est vraiment très bienveillant. J'ai eu un lit adapté, puisqu'à 197 kilos, je ne rentrais pas dans le lit de l'hôpital.
C'est incroyable, ça. Ils ne peuvent pas prévoir des lits.
Alors non, puisque ça a été l'un de mes combats. Après avoir été opérée quelques années après, je me suis battue pour qu'à l'hôpital de Poissy, il y ait 4 chambres adaptées pour les personnes en obésité, parce que rien n'était prévu. Et ça, ce n'est pas de la faute du chef de service, mais c'est de la faute de nos dirigeants. En fait, vous allez dans de nombreux hôpitaux à Paris, ils soignent l'obésité, mais ce n'est pas adapté. Ce n'est pas normal.
Qu'est-ce qu'il faut adapter à part les lits ? Il y a d'autres choses ?
La douche.
Oui.
Les toilettes.
Oui.
Voilà. Et puis, il faudrait faire un service. Parce que quand même, quelquefois, on se retrouve en chirurgie générale. Donc, on est à côté de personnes qui ont un cancer ou d'autres pathologies. Et moi, je trouve que ce n'est pas gai. En fait, nous, on vient à l'hôpital pour se faire soigner. Et on devrait être accueillis dans de bonnes conditions et avec dignité. Ce n'est pas toujours le cas.
Mmh.
Est-ce que vous ou d'autres personnes qui ont suivi le même parcours que vous, la chirurgie bariatrique dans des passages en hôpitaux, ont eu l'impression qu'ils étaient maltraités par grossophobie, par préjugés ?
Personnellement, j'ai subi la grossophobie. En fait, comme je vous l'ai dit, j'ai rencontré deux chirurgiens.
Oui.
Les deux étaient bien. Et je suis allée dans un hôpital où j'ai eu des examens à faire et où j'ai été victime de grossophobie.
Qu'est-ce qui s'est passé ?
La diététicienne m'a dit « De toute façon, je ne vous signerai pas l'accord pour vous faire opérer. »
Oui.
En fait, elle était tuée dans cet état-là. Donc, c'est de ta faute. Elle n'a pas cherché à comprendre. Mais en fait, elle m'a dit « Non, je ne signerai pas. » Donc, je suis partie.
Il fallait qu'elle signe ?
Oui. En fait, il faut qu'on ait l'accord. Il faut l'accord d'un psychiatre ou psychologue et de toute une équipe pluridisciplinaire.
Donc vous êtes allée ailleurs, voir ailleurs
Après, j'avais déjà rencontré mon premier chirurgien, mais moi, je voulais deux avis. Voilà. C'était ma première opération, mais je voulais à tout prix deux avis.
Bien
mais,
sûr.
Voilà. Et avec lui, on a beaucoup de points communs, déjà. Et il m'a regardée différemment des autres personnes que j'avais vues. En fait, il m'expliquait que j'étais malade. Il m'a dit « Vous êtes malade ». Déjà, ça m'a rassurée. Et après, il m'a dit « Je vais vous aider. Voilà ce qu'on va faire. Il y a ça, ça, ça à faire. » Je lui ai dit « D'accord ». Et j'ai suivi mon parcours comme tout le monde.
Oui. Et alors, on va continuer à parler de l'après. Mmh. Mais l'avant... Qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes retrouvée en situation d'obésité morbide, l'obésité est très importante.
Oui.
Est-ce que vous avez toujours eu des problèmes de surpoids ? Est-ce qu'il y a eu quelque chose ?
On va dire que j'étais ronde, mais que j'ai eu des problèmes au niveau du pancréas
oui.
et au niveau hormonal.
Oui.
Et en fait, je ne me suis pas vue peser 197 kilos. Il faut savoir que la première fois que j'ai rencontré le professeur Chouillard, il m'a pesée. Je lui ai dit, votre balance, il y a un problème.
Vous pensiez peser beaucoup moins ?
Oui, je me disais 150. Voilà, même si déjà, ça restait énorme. Et après, il m'a dit, allez vous asseoir. Je suis retournée sur la balance, 197.
Oui.
Donc là, je me suis dit, non, il n'y a pas de problème. C'est ton poids, Karine. Voilà.
Oui, et chez vous, c'est difficile de se peser, c'est pas possible.
Alors en fait, que ce soit moi ou d'autres personnes, il y a 10 ans, les balances, elles s'arrêtent à 150 kilos. Voilà.
D'accord.
En fait, il faut penser à ça. Maintenant, on arrive à en trouver, je pense, 200 kilos, ou quand on va à l'hôpital, moi par exemple, il y a à Poissy, ils ont des balances où on peut être pesé. Mais sinon, vous ne trouvez pas dans le commerce, des fois, ça s'arrête à 120 kilos.
Ah oui, oui.
Oui, en fait, quand,
c'est vraiment pas
en fait, ouais, quand je vous dis la grossophobie, mais il y a de la grossophobie partout, puisqu'en fait, on peut même pas se peser.
Oui, c'est incroyable. Ouais.
Voilà.
Donc, vous avez pris conscience du fait que vous aviez une maladie, l'obésité, à partir de quel moment ?
Quand j'ai rencontré le professeur Chouillard. Voilà. Qu'en fait, quand lui,
mais
je
vous
l'ai...
aviez déjà 197 kilos.
Oui, mais en fait, quand lui, je l'ai rencontré, avec lui, j'ai eu un déclic.
Oui.
En fait, il m'a expliqué ce qu'il allait faire, que j'étais malade. Et là, j'ai compris. Il m'a expliqué les dangers de l'opération. Il m'a tout expliqué.
Oui.
J'étais en confiance. Donc, du moment que j'étais en confiance avec lui, je suis partie dans ce parcours.
Oui. Et alors, souvent, on explique aux personnes obèses, ou on pense des personnes obèses, oui, mais elles se laissent aller, c'est pour ça qu'elles sont si grosses.
Ça, Carole, c'est de la grossophobie.
Et oui, qu'est-ce que vous en dites ?
Non, je dis que c'est totalement, totalement faux, qu'il y a des personnes obèses qui sont dynamiques, qu'elles ne se laissent pas aller. Je ne citerai pas de nom, mais on a quand même des vedettes qui sont en obésité. Et en fait, elles sont comme tout le monde. C'est le regard des gens. Le regard des gens qui est sur nous, qui est blessant, méchant. Mais en fait, on est comme vous. On est en obésité,
oui.
Certes. Mais en fait, on est normal.
Oui. Vous ne mangez pas plus que les autres vous...
L'obésité, déjà, ce n'est pas parce qu'on mange plus puisque c'est une maladie.
Oui.
Ça peut être à des problèmes hormonaux. Et puis, il y a aussi des personnes, moi, ça n'a pas été mon cas, mais qui ont subi des traumatismes et qui sont en obésité puisque c'est une carapace. En fait, il faut s'intéresser aux gens. C'est facile dans la rue de juger une personne en obésité.
Oui, ça va très vite en plus.
Oui, déjà, ça va très vite. Et puis, moi, je dis aussi qu'il faut former le personnel médical, le personnel soignant.
Oui, et c'est pour ça que vous vous mettez en avant dans les médias, Karine Robles. On a pu vous voir dans d'autres émissions, à la radio, à la télé. On va continuer à parler de votre parcours et à parler de grossophobie avec vous dans un instant sur Vivre FM.
Vous écoutez Vivre, c'est épatant avec Carole Clémence.
Avec Karine Robles, notre invitée. Aujourd'hui, on parle d'obésité, on parle de son parcours. Elle qui a eu une obésité aiguë en 2011, elle pesait 197 kilos. Un an après, elle avait perdu 100 kilos grâce à une chirurgie bariatrique et à des efforts après, de gros efforts. Quelles ont été les conséquences de cette chirurgie sur votre corps, Karine ?
Mais déjà, on mange différemment. Puisqu'on mange en petite quantité, on fait 6 petits repas, 3 collations.
Ça change vraiment la vie. Hein.
Ça change la vie.
Qu'est-ce que vous pouvez manger en un petit repas ? Qu'est-ce que ça contient, un repas ?
La taille d'un pot de yaourt.
Oh, ah oui.
Voilà, comme ça tout le monde va comprendre. D'accord. Voilà. Et après, il faut manger vraiment en petite quantité. Et puis, il faut bien suivre son protocole. On a un protocole alimentaire. Et puis, ne pas oublier que l'opération, c'est une béquille, un outil qui nous aide.
Oui.
Et que si on ne veut pas reprendre du poids...
Parce que c'est possible, on peut reprendre malgré l'estomac beaucoup plus petit.
Oui, si vous le dilatez, si vous forcez sur l'estomac, si vous buvez des choses pétillantes, des boissons pétillantes, vous pouvez agrandir votre estomac.
Donc, il pourrait redevenir comme avant ?
Oui. Ouais. Et ça, je ne le veux pas.
Bah, j'imagine.
Voilà.
J'imagine, vous avez fait beaucoup d'efforts.
Oui.
Donc des repas, vous ne pouvez pas aller au restaurant ?
Maintenant, si. Oui, maintenant, si, mais au début, non. Au début, moi, je n'allais pas au restaurant, ou alors il faut prendre des menus enfants. Oui. Je sais que ça se fait. Voilà.
Oui. Et est-ce que après cette année où vous avez perdu 100 kilos, vous perdez encore du poids ou c'est stable ?
Alors, mon corps, il était vraiment très, très fatigué parce que j'y ai mis vraiment tout mon cœur,
oui.
Toute mon énergie avec mon chirurgien. Puis à l'époque, j'avais un biologiste, donc qui m'a beaucoup aussi aidée. Et après, ben, je continue par période à perdre un petit peu par petit peu. Après, voilà, mon chirurgien me dit déjà que j'ai un parcours exceptionnel. Et que, bah oui, après moi, je n'ai pas fait ça pour peser 40 kilos. Moi, j'ai fait ça pour ne plus avoir de comorbidité et pour pouvoir vivre.
Oui.
Voilà,
oui.
Pour pouvoir me déplacer, voilà, faire des choses. Oui. Et surtout, être engagée dans l'obésité.
Parce que lorsque vous étiez, avant cette chirurgie bariatrique, vous pesiez presque 200 kilos.
Oui.
Vous pouviez faire quoi exactement ? Vous aviez du mal à marcher ? Vous aviez du
Je ne pouvais plus marcher quand je suis allée voir mon chirurgien.
Vous étiez en fauteuil ?
Non, mais en fait, je me déplaçais. Je ne pouvais plus me chausser. J'étais en ballerine.
Oui.
Et bah, je prenais un VSL pour sortir. Je ne sortais pas, en fait, je ne pouvais pas marcher. Et en plus, comme je dis toujours, ça va vous faire sourire, mais à 197 kilos, quand j'étais sur un passage piéton, on klaxonnait très souvent.
Pourquoi ?
Bah, d'un air de dire, va plus vite. Voilà.
Mais on ne klaxonne pas les personnes âgées ?
Bah écoutez, faudrait se renseigner. Mais moi, en tous les cas, oui, sur un passage piéton, pas qu'une fois, ça m'a beaucoup marqué. En fait, parce que j'avais des problèmes pour me déplacer, bah, des personnes, oui, klaxonnaient.
Oui. Ouais, et donc on peut se dire que le temps du petit bonhomme vert pour les piétons n'est pas suffisant.
Voilà, tout à fait.
Il faut aussi adapter ça. Il faudrait, oui, qu'on puisse l'adapter à la personne.
Oui, ça c'est. Oui, puis même quelquefois il y a pas les feux à piétons et en fait on veut traverser. Bah oui, quand on est en obésité, je vous dis, il faut voir tout ce qu'on subit.
Et alors, qu'est-ce que vous...
Maintenant, je passe au passage piéton, ne me klaxonne plus.
Comment est votre vie maintenant? Vous pouvez faire du sport? Vous marchez normalement?
Alors, je marche normalement. Je fais un peu de sport. Je ne suis pas une grande sportive. Et puis, j'ai mes engagements, puisque je suis une personne de terrain. Je milite contre la grossophobie, le handicap, la santé, parce que c'est des choses qui me tiennent à cœur.
Bien sûr.
J'aide les personnes. Et puis, j'ai aussi quelques émissions télé, radio et certains magazines. Voilà.
Oui, oui. C'est-à-dire que comment c'est venu ça, les médias ?
Alors, en fait, mon histoire a été médiatisée déjà il y a 10 ans.
Oui, quand vous avez perdu ces 100 kilos ?
Non, avant.
Avant ?
Oui, avant, mon obésité a été médiatisée.
Pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ?
C'est aussi moi qui l'ai voulu. Je voulais que les gens voient, puisque quelquefois, on habite en immeuble et on ne sait pas... de quoi la personne souffre.
Oui.
Donc moi, en fait, je ne me suis pas cachée, puisque moi, ça faisait 6 mois que je n'étais pas sortie de chez moi.
Oui, vous ne pouviez pas.
Non, oui, voilà. Donc en fait, j'ai expliqué ma situation. Et après, j'ai eu un certain, on va dire, élan de solidarité. Et ensuite, je suis allée me faire opérer. Et une fois que j'ai été opérée, j'ai pensé à tout ce que moi j'ai subi et à tout ce que d'autres subissent. Et j'ai décidé de me battre pour ces personnes-là.
Oui, oui. Donc en fait, votre opération a été filmée, c'est ça ?
Oui.
Oui.
Oui, oui. C'était ma première opération. Moi, j'avais quand même peur de mourir sur la table d'opération.
Oui, il y avait de vrais risques.
Voilà, puisqu'il y avait des risques. Et quand on m'a proposé de la filmer... Mon chirurgien, je lui ai demandé, et on a eu les accords, et oui, c'est filmé.
C'est qui vous a filmé ?
Un journaliste d'une télé locale,
d'accord,
qui n'existe plus, mais d'Yveline Première, qui eux m'ont beaucoup aussi aidé. C'était une télé locale de Saint-Germain-en-Laye, et vraiment ils m'ont beaucoup aidé, ils m'ont suivi tout le long de son parcours et après. Et pour moi, c'est très très important, puisque à chaque fois que je fais une radio... une télé ou que vous me voyez dans les magazines, j'ai toujours des personnes qui m'écrivent et j'essaye de faire avancer les choses avec elles.
Oui.
Voilà.
Et on va continuer, puisque vous êtes aujourd'hui avec nous dans Vivre, c'est épatant, Karine, et vous êtes épatante vous-même. On va faire une pause et puis on revient pour parler de ce parcours et notamment de l'émission de M6.
Vous écoutez Vivre, c'est épatant avec Carole Clémence.
Karine Robles est avec nous, elle nous parle de sa renaissance, son opération en 2011 lorsqu'elle est opérée de l'estomac. On lui enlève une partie de l'estomac, c'est la chirurgie bariatrique. Elle passe de 197 kilos elle perd 100 kilos, voilà,
à 80.
En un an à peu près, après cette chirurgie qui lui a sauvé la vie, en tout cas c'est ce que vous pensez Karine. L'obésité c'est une maladie, c'est reconnu par l'OMS depuis 1997. Et est-ce que c'est une maladie que vous avez toujours ou que vous avez vaincue aujourd'hui ?
Alors aujourd'hui, je suis en surpoids, mais aussi je voulais lancer un appel, puisque va y avoir les élections présidentielles. Il faut savoir que l'obésité n'est pas reconnue comme maladie en France.
Oui.
Alors j'en appelle aux candidats de la présidentielle à se positionner sur le sujet, en sachant qu'il y a de plus en plus de personnes en obésité.
Qu'est-ce que ça changerait ?
Le regard des autres, le regard sur nous. Puisque quand on va voir un chirurgien, il nous dit « vous êtes malade ».
Oui.
C'est pas reconnu en France.
Oui. Vous pensez qu'il y aurait moins de grossophobie si on disait « l'obésité, c'est une maladie, on n'y peut rien, c'est une maladie ».
Mais déjà, je pense que oui. Je pense aussi que le regard sur nous changerait. Puisque moi, c'était pas mon cas. Mais moi qui suis en relation avec des futurs opérés, des personnes opérées, certaines personnes, on leur dit oh « oui, si tu es comme ça, c'est de ta faute ». Et quand elle dit « je suis malade », y en a qui disent non. tu n'es pas malade. Quand on voit sur les réseaux sociaux beaucoup de gens avec certains produits minceurs, c'est se moquer de nous.
Comment ça?
Bah oui, vous en avez qui disent, on va pas dire la célèbre marque, mais manger tel plat, manger ceci, manger cela, vous allez mincir. Non, c'est pas vrai.
Les régimes, vous aviez essayé, j'imagine.
Oh là.
Évidemment.
J'en ai fait plein. Je perdais et après je grossissais même des fois plus que j'avais perdu.
Oui.
Oui.
Ça marche pas les régimes pour les personnes obèses?
Chez moi, ça n'a pas fonctionné. Et de toute façon, beaucoup disent que le régime, un régime à vie, ne fonctionne pas.
Oui, et alors vous êtes toujours, vous n'êtes jamais débarrassé de ces contraintes de la nourriture, puisque vous êtes toujours en train de faire 6 à 8 petits repas par jour. Ça ne changera pas toute votre vie?
Après, ça dépend. Je m'organise suivant la journée que j'ai à faire. Quelquefois, je prends un bon petit déjeuner, puis je mange un peu plus tard. Je loupe une collation.
Oui.
Mais après, sur le restant de la semaine, j'arrive à tout rééquilibrer.
Oui. Voilà.
Pour moi, c'est très, très important.
Oui. Et alors, les effets secondaires aussi de cette ancienne obésité, c'est que votre corps, il est quand même fatigué.
Oui, mon corps est fatigué.
Et vous ne pouvez pas travailler actuellement, en tout cas?
Non, non. Ouais. Pour le moment, non, puisque quand on me voit, on dit « Oui, Karine, tu es en forme et tout. » Mais j'ai aussi des suites à l'opération. Donc l'opération m'a fait perdre le poids, mais j'ai quand même des problèmes au niveau des articulations. Ça n'a pas bougé.
Le fait d'avoir perdu du poids, ça n'a pas amélioré l'état de vos articulations?
Non, en fait, elles étaient abîmées, donc...
Oui, donc je ne peux pas revenir derrière.
Voilà, mais... oui, je ne peux pas. Et après, j'ai toute ma chirurgie réparatrice à faire. Et après, là, je vais m'y mettre. Et là, en fait, je prospère. Je rencontre des chirurgiens pour savoir lequel je vais prendre.
Donc, chirurgie réparatrice, ça consiste en quoi?
Parce que j'ai la peau qui pend.
Oui.
Donc, j'avais déjà fait une fois le ventre, mais il faut le refaire puisque je continue à perdre.
D'accord.
Je ne ferai pas les cuisses ni les bras, mais je veux refaire une fois mon ventre.
D'accord. Oui, ça, il faut absolument passer par l'opération, c'est le seul moyen.
Oui. Oui, oui. Et puis vu le poids que j'ai perdu, je pense que même le sport ne m'aurait pas aidé pour ça.
Oui. Oui, donc c'est toujours, vous êtes toujours sur les effets secondaires de cette ancienne obésité, c'était il y a 10 ans.
Je dis toujours, une fois qu'on a perdu du poids, bon moi j'ai perdu 100 kilos, mais même une personne qui perd 30, 40 kilos, en fait il faut savoir, puisque ça c'est les retours aussi que j'ai, quand on se regarde dans la glace, on se voit le ventre qui pend, la poitrine, tout, les bras de chauve-souris. Mais ça nous rappelle notre obésité et ça nous fait aussi mal.
Oui, oui. Et puis, il y a encore la grossophobie qui est autour. Vous n'êtes plus en état d'obésité, Karine. Vous avez perdu beaucoup de poids. Est-ce que vous avez encore des réflexions désagréables sur votre corps?
Non. Non. Je dis simplement... La grossophobie, je l'ai vécue, c'est dans le monde gynécologique.
D'accord.
Voilà. Puisque, je vais vous donner un exemple. En fait, je n'ai pas d'enfant.
Oui.
Et en fait, quand j'allais voir un gynéco et j'expliquais mon problème, on me disait, vous n'avez qu'à maigrir. D'accord. Or, une fois, j'ai fait le test. Une dame que je connaissais, mince, qui a dit pareil que moi, elle, on s'est occupé d'elle.
Oui.
Voilà.
Oui. Oui, oui, donc on ne voulait pas prendre en charge vos problèmes parce que vous aviez
une
obésité.
En fait, oui, quand vous allez voir, souvent, on vous dit, quand vous dites j'ai mal au genou, qu'est-ce qu'on vous répond, le médecin? Vous n'avez qu'à maigrir.
Oui, c'est la réponse adaptée à tout.
Oui, vous avez mal au dos, vous n'avez qu'à maigrir. Mais oui, après, ils ne cherchent pas. Ouais. En fait, ils ne cherchent pas à comprendre le pourquoi. C'est simplement, vous n'avez qu'à maigrir, vous n'avez qu'à maigrir.
Et on peut passer à côté de choses importantes, de maladies graves? lorsqu'on part du principe que la personne, tout est lié à son surpoids et on ne va pas chercher ailleurs.
Bah oui, c'est ça, il est là le problème. Et oui. C'est pour ça que je suis très très contente d'avoir rencontré ce chirurgien, parce qu'il m'a tout expliqué.
Oui.
Non, je remercierai moi jamais assez le professeur Chouillard. Oui. Il m'a tout expliqué et ce que ne fait pas un médecin traitant.
Oui, vous pensez que les médecins généralistes notamment, ne sont pas formés à aider les personnes obèses?
Ah, ça, j'en suis convaincue.
Oui.
Et pas que. Mais en fait, et puis ils ne savent pas. Quand on est en face d'un médecin, c'est pas, la plupart ne savent pas nous parler. Déjà, ils ne savent pas nous accueillir. Au niveau des chaises, ben, c'est très rare que vous avez une chaise adaptée.
Oui, mais c'est pareil partout, les transports en commun aussi. Rien n'est adapté pour vous.
Oui, voilà. Mais vous voyez, mais quand même, quand vous allez dans le monde médical,
oui,
vous devriez être accueilli correctement.
Oui.
Mais ce n'est pas le cas. Quelquefois, même quand vous allez dans un hôpital et que l'ascenseur il est en panne, vous faites comment?
Oui, et c'est compliqué effectivement. Et alors vous vous battez justement pour que dans les hôpitaux, et bah, celui de Poissy, vous avez pu faire changer les choses, racontez-nous.
Alors je suis allée un jour, j'en suis pas fière, hein, avec un journaliste du Parisien. Et il y a eu un article qui est sorti et quelques années en disant que les personnes en obésité étaient... pas très bien accueilli.
Après, parce que vous êtes allé avec ce journaliste à Poissy, dans l'hôpital. Et
oui.
Il a pu constater. Qu'est-ce qu'il a pu constater?
En fait, si moi je fais constater toute seule,
oui,
ça ne va jamais fonctionner.
Bien sûr.
En fait, avec un journaliste, un article qui est paru, c'était pas... la direction n'a pas été très contente. Aujourd'hui, le résultat, c'est qu'il y a 4 chambres pour des personnes qui sont adaptées, qui oui, sont en obésité. Pour moi, c'est ça qui compte. Pour moi, c'est le résultat. Ce n'est pas pour moi les chambres,
bien sûr,
c'est pour les personnes.
Vous pensez que c'est suffisant, 4 chambres?
En fait, je trouve déjà que c'est bien parce qu'elles n'existaient pas.
Oui.
Et après, je voulais aussi rappeler que l'hôpital de Poissy, comme il y a 37 autres centres, il me semble, ils sont centres spécialisés obésité, CSO. Alors moi, il faut m'expliquer... comment un hôpital, il est CSO, centre spécialisé obésité, et qu'il n'a pas de quoi accueillir des personnes en obésité.
Oui.
Ça, moi, je n'ai jamais compris. Comme à Poissy, en fait, on fait notre chirurgie, donc de l'obésité, et il n'y a pas de chirurgien réparateur. Il faut qu'on aille à Paris, franchement.
C'est pas encore assez adapté.
Ben non, et en plus, j'ai déjà rencontré la direction de l'hôpital de Poissy. J'aurais déjà demandé. On me dit « Oui, oui, Madame Robles, ils ne font rien. »
Ça bouge pas.
Non, ça bouge pas.
Ça bouge pas. Et alors, vous continuez d'aller dans les médias, Karine Robles,
oui,
justement, pour faire changer les choses. Voilà, alors pour faire adapter dans le monde médical, mais aussi ailleurs, faire adapter aux personnes qui souffrent d'obésité. Mais il n'y a pas que ça. Vous allez aussi, vous avez fait l'émission de M6, meilleur pâtissier gâteau sur commande. Racontez-nous.
Alors écoutez, ça c'est une formidable aventure. Franchement, je remercie mes deux petites fées qui sont journalistes et qui m'ont aidée, où j'ai été sélectionnée. Je remercie aussi Kitchen Factory Productions, Merwan, Julia Vignali, puisque c'est aussi grâce à eux. En fait, je suis allée sur le plateau, il y avait deux anciens chefs pâtissiers, enfin ceux qui ont participé à l'émission, et je leur ai demandé de me faire un gâteau léger, savoureux et peu calorique. Et c'était vraiment divinement bon.
Et c'est eux qui l'ont fait.
Oui.
Voilà, d'accord. Et ce gâteau, vous avez récupéré la recette?
Oui, j'ai récupéré les deux recettes, puisque bon, moi j'avais voté pour un candidat, mais les deux étaient très bons. Et maintenant, là, je suis en projet pour que l'il y ait un gâteau léger, savoureux et peu calorique. Et mon souhait serait que les restaurants adaptent cela à leur carte.
Bien
puisque
sûr,
j'entends beaucoup de gens qui sont ni en obésité, ni diabétiques, mais qui trouvent les desserts trop sucrés.
Bien sûr.
Dans les restaurants. Et donc, je me dis, bah, écoutez, dans un restaurant, devrait bien y avoir un dessert léger, savoureux et peu calorique.
Oui, et s'en est où alors, on le raconte, ce dessert dans les restaurants?
Bah, écoutez, dans les restaurants, là, pour le moment, j'ai été contactée, puisque j'ai lancé aussi le projet sur une autre radio. Donc, pour le moment, j'attends. Et puis, je voudrais, sur Paris, mener ça dans divers établissements.
Très bien.
Voilà.
Très bien.
Donc, si des restaurateurs, des pâtissiers m'entendent, il n'y a pas de problème.
Oui, et ce gâteau, il est au chocolat, non? Il n'y a pas de chocolat?
Non.
Non, ah, c'est dommage.
Après, on peut le faire, voilà, moi j'aime bien avec une mousse de fruits, mais on peut le faire avec du chocolat, parce que je ne sais pas si vous savez, mais maintenant, de plus en plus, de chocolatiers vendent du chocolat sans sucre. Et j'ai goûté, c'est vraiment très bon.
C'est avec du sucre synthétique, oui. du style stevia, c'est ça?
Voilà. Voilà, et franchement, c'est très bon. Et il y en a certains, c'est sans sucre ajouté. Et c'est vraiment très, très bon.
Oui, et c'est beaucoup cher, c'est beaucoup plus cher peut-être?
Non.
Non, ça va?
Non, ça, c'est correct. Après, comme on ne mange pas beaucoup, il faut savoir se faire plaisir.
Bah oui, c'est sûr. Vous êtes justement une ambassadrice du bien manger, Karine?
Oui.
Ça consiste en quoi? Vous donnez la bonne parole, mangez pas ça, mangez pas ci.
Non, pour moi, je n'interdis rien. Chacun est libre. Mais en fait, maintenant, je prends plaisir, quand j'ai une assiette, à regarder l'assiette, à regarder ce qu'il y a dedans et aussi à déguster. Maintenant, je ne suis plus gourmande, je suis devenue gourmet.
Oui,
voilà.
Et ça change beaucoup de choses. Mais il faut y arriver, parce que quand on aime perdre du poids, quand on veut perdre du poids, c'est pas évident justement de se réduire à des choses bonnes et d'apprécier une petite quantité qualitative.
Oui, mais en fait, moi je suis médiatisée, comme je dis. Je pense être une personne publique, une personnalité publique. Donc je me dois aussi de montrer l'exemple aux personnes. Et ça me motive, et surtout dire aux personnes, puisque quand on souffre d'obésité, on est souvent isolé, puisque ça aussi, je le reçois comme témoignage. Et je voudrais dire aussi aux personnes qui sont isolées qu'elles ne sont pas seules. Et certes, c'est pas facile de franchir la porte d'un hôpital, d'aller voir un chirurgien, puisqu'on sait jamais sur qui on va tomber.
Oui.
Voilà. Mais oui, il y a une solution. La solution, c'est l'opération.
Et alors, qu'est-ce que vous conseillez aux personnes qui sont obèses, comme vous l'étiez, et qui voudraient s'en sortir? Qu'est-ce que vous leur conseillez de faire, là? Elles ont, en imaginant qu'elles ont tout leur régime échoue, elles ne savent plus quoi faire.
Ben, de s'intéresser à la chirurgie, tout en sachant qu'il y a un parcours qui est le minimum de 6 mois. Et surtout, ce que j'ai envie de leur dire, il faut aller au feeling.
Oui.
Si le chirurgien ne nous convient pas, on prend la porte, on va en voir un autre.
Oui.
Voilà.
Un chirurgien qui vous convient, c'est quelqu'un qui a l'air empathique, attentionné?
Bienveillant.
Bienveillant.
Bienveillant, qui nous explique ce qu'il va faire de notre estomac.
Oui.
Qui prend le temps. Ça, c'est très, très important pour moi. En fait, mon chirurgien est reconnu, classé parmi les 150, il me semble, meilleurs médecins de France.
D'accord.
Voilà, professeur Chouillard. Et pour moi, c'est important parce qu'il prend toujours le temps. Si on lui pose une question, il ne dit pas oui. Non, il prend le temps de nous répondre.
Oui.
Et il est toujours présent.
Et puis j'imagine que c'est bien aussi de se rapprocher d'associations.
Bah, pour ma part, ça dépend des personnes. Après, vous savez, il y a certaines personnes qui ont des associations, mais les associations ne font rien.
Elles ne vous conseillent pas? Elles ne vous disent pas?
Bah, certaines... écoutez, non. Moi, déjà, le chirurgien, je dis déjà, c'est au feeling.
Oui.
Et moi, par exemple, bah, j'habite à Poissy, donc pour moi, ça a été... L'hôpital est proche de chez moi, en plus. Mais en fait, je me suis renseignée. Moi, en fait, voilà, je m'étais renseignée avant sur le professeur Chouillard, sa réputation. Donc après, j'ai envie de dire, chaque chirurgien a une réputation.
Oui.
Et à nous d'aller le voir, à nous de pousser la porte et puis de voir si on fait avec lui ou pas ce parcours.
Et c'est ce que vous avez fait et vous avez bien fait. En tout cas, vous en êtes très contente, Karine Robles. Vous êtes très positive. Hein. C'est vraiment... vous êtes assez épatante, finalement. Votre parcours est épatante,
merci.
Karine.
Non, en fait, oui, il faut... Aussi, je voudrais aussi dire, il faut s'entourer de personnes positives. Comme je dis maintenant... J'ai certains vautours qui tournent autour de moi. C'est comme ça que je les appelle. Ces personnes-là, je les élimine. Je m'entoure que de personnes positives et bienveillantes.
Oui, ça, c'est un conseil. Un bon
voilà,
conseil.
Ça déjà, c'est un conseil. Il y a des personnes qui me critiquent. Bah, écoutez, elles me critiquent. C'est elles qui ont leur avis sur moi. Moi, ça ne me concerne pas ce qu'on dit sur moi, que ce soit négatif, positif. Ça, quand c'est positif, oui, mais quand c'est négatif, moi, ça ne me regarde pas.
Oui, donc il faut arriver à ne pas écouter, à s'éloigner de ces gens négatifs et à s'entourer de gens positifs.
Voilà, et puis ne jamais oublier qu'on nous opère d'un estomac et pas du cerveau. Donc, il y a beaucoup aussi à faire psychologiquement.
Oui, il faut travailler
ouais,
sur
il faut travailler mental, sur ouais. Il faut travailler sur soi.
Oui.
Et c'est pour ça qu'il faut qu'on soit vraiment bien entouré.
Oui.
Ça c'est vraiment très très important.
Karine Robles, merci d'être venue au micro d'Ivre FM.
Ben merci beaucoup à Carole, merci aux auditeurs et puis aussi je voulais remercier les auditeurs qui m'ont déjà écrit puisque j'étais venue une fois chez Ivre FM pour venir chercher un lot L'Oréal.
Voilà, on a un jeu et vous avez gagné ce
voilà.
jeu par hasard.
Et en fait, voilà, je voulais vraiment remercier les personnes pour leur bienveillance.
Merci à vous, Karine Robles.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
C'était un podcast Vivre FM. Si vous avez apprécié ce programme, n'hésitez pas à vous abonner.